Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Saria Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Alexandra Candilonguet. À la technique, Alex Dang.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
C'est le deuxième jour d'un procès qui voit défiler à la barre depuis hier défenseurs et détracteurs du capitalisme, un système économique que l'on peine à définir et dont les conditions d'apparition entre la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes continuent de faire débat. Le capitalisme aujourd'hui jugé responsable de la destruction de l'environnement et de l'intolérable montée des inégalités. Alors quelle menace fait-il peser sur la démocratie qui déjà se fissure ? Comment la concentration croissante des richesses accentue-t-elle les fractures de nos sociétés ? Et les États peuvent-ils encore servir l'intérêt général face à l'hyperpuissance des multinationales ? Voilà les questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. Vous écoutez France Culture, nous sommes encore en démocratie. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Et pour parler du divorce entre capitalisme et démocratie, nous accueillons aujourd'hui Bruno Amable en duplex de Genève, économiste, professeur à l'Université de Genève et auteur de cet ouvrage « Les cinq capitalismes, diversité des systèmes économiques et sociaux dans la mondialisation » paru au Seuil il y a quelques années. Avec nous également Yves Saint-Omer, politiste, professeur à l'Université de Paris 8 et auteur de « Petite histoire de l'expérimentation démocratique, tirage au sort et politique d'Athènes à nos jours » publié à La Découverte. À 14h50, on retrouvera le journal de l'écho, présenté comme chaque jour par Xavier Martinet. Bonjour Bruno Amable et Yves Saint-Omer.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu dans notre studio. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui relie ce concept de démocratie et le concept de capitalisme ? Est-ce que c'est cette idée, Bruno Amable, qui a pu perdurer longtemps, que la liberté politique ne peut exister sans liberté économique et inversement ?
Oui, pour ce qui est de l'idéologie, c'est à peu près certain. Le libéralisme se présente alternativement comme un libéralisme qui favorise l'accroissement des richesses et l'accroissement de la liberté individuelle, aussi bien sur le plan politique. Et historiquement, en plus, la concomitance, si vous voulez, du développement du capitalisme et de la démocratie au cours du XXe siècle a certainement renforcé l'idée que les deux choses allaient ensemble.
C'est ce qui explique, Yves Saint-Omer, que cette idée est perduré longtemps, cette idée selon laquelle capitalisme et démocratie étaient deux systèmes qui allaient de pair et se renforcer mutuellement, une idée qui est peut-être pour certains aujourd'hui dépassée.
C'est une idée en même temps qui est relativement récente. Il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle, le capitalisme et la démocratie ne faisaient pas bon ménage. C'était le moment du capitalisme sauvage, c'était le moment où le capitalisme s'affirmait dans l'Europe du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord, mais où le développement du capitalisme aboutissait à maintenir des gens dans des situations de dépendance, à la fois économique, sociale, politique, dans le reste du monde. Au début du XXe siècle, on a vu éclater des crises d'une ampleur terrible, qu'on menaçait à mort, la démocratie qui s'instaurait peu à peu. Et puis c'est finalement dans les décennies qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale qu'on a eu l'impression que les deux choses allaient de pair, pour beaucoup en tout cas, et que liberté économique et liberté politique allaient de pair. Et puis on s'aperçoit aujourd'hui de nouveau qu'il n'en est rien, que le capitalisme a fleuri en Chine depuis quelques décennies maintenant et que cela ne s'est pas accompagné d'un mouvement de démocratisation. Et puis on voit parallèlement que la globalisation du capitalisme aujourd'hui remet en cause le cadre démocratique dans lequel nos sociétés s'étaient développées.
Vous partagez ce premier constat, Bruno Amable, peut-être d'un capitalisme qui n'a jamais eu autant d'ampleur et en même temps d'une crise de la démocratie dans les pays occidentaux.
Oui, certainement. Finalement, l'association positive entre capitalisme et démocratie, elle a été limitée dans le temps et elle a été limitée dans l'espace. Et il y a une contradiction de fond qui a été évitée pendant quelques décennies, qui est entre la loi du nombre et la loi de l'argent, si vous voulez. Et lorsque le nombre ne possède pas suffisamment d'argent et que l'argent est suffisamment concentré, il est clair que cette contradiction entre les deux logiques éclate avait conduit à effectivement ce divorce croissant entre démocratie et capitalisme.
Et comment expliquer que cette contradiction n'ait pas été visible ou n'ait pas existé après la Seconde Guerre mondiale? À ce moment-là, Yves Saint-Omer, il y a cette idée que l'économie sociale de marché va allier la recherche du profit et la poursuite de l'intérêt général, et ça marche parce qu'on est en période de croissance.
Oui, je crois que pendant la contradiction ou la tension existait encore, mais elle avait été en quelque sorte désamorcée, au moins partiellement, d'un côté par l'État social et l'économie sociale de marché, protection accrue des classes populaires, niveau de vie jamais atteint dans ces pays-là, rappelons-le, et seulement dans ces pays-là. Donc d'un côté, il y avait, disons, une sécurité et une reconnaissance aussi. C'était pas simplement un problème matériel, c'était Robert Castel qui a insisté là-dessus, une affiliation des salariés à la société, d'une part. Et puis deuxièmement, on a eu les partis de masse qui ont permis que les classes populaires qui autrefois étaient finalement à l'extérieur du système politique représentatif et qui souvent l'assaillaient de l'extérieur pour le meilleur et pour le pire dans des révolutions, dans des contre-révolutions, aient été intégrés au système politique représentatif pendant quelques décennies grâce à ces partis de masse qui jouaient en quelque sorte un rôle d'éponge entre les citoyens et les décideurs, et puis qui organisaient aussi le débat démocratique dans la société.
Il faut donc parler, Bruno Amable, d'un compromis de l'après-guerre, un compromis qui va disparaître peut-être avec l'avènement du néolibéralisme qui intervient à la fin des années 70.
Oui, c'est un compromis. Dans le monde occidental, il a des éléments communs. On peut le qualifier de compromis social-démocrate, bien que quand on regarde dans le détail, il y avait des différences tout à fait significatives entre les différents pays. Et c'est un compromis qui bride le capital, en quelque sorte. Et au bout d'un moment, il y a des contradictions du capitalisme, même social-démocrate, qui finissent par devenir intenables, qui vont avoir avec la chute de la profitabilité, des problèmes de ralentissement de productivité, etc. Tout ça a conduit au fait que le capital, a souhaité de façon croissante se libérer de ce qu'il le bridait jusque-là. Et donc ça a favorisé une remise en cause justement des conditions dans lesquelles ce compromis s'était établi.
C'est important la question que vous posez, Bruno Amable, parce qu'effectivement on peut se demander ce qui cause ce tournant néolibéral dans les années 70. Est-ce que c'est lié à l'inefficacité de cette démocratie social, ou est-ce que c'est lié à, c'est l'argument qui a pu être avancé aussi par les critiques des néolibéraux, est-ce que c'est une instrumentalisation des difficultés économiques qui existaient alors et qui étaient liées au choc pétrolier?
Oui, je crois que je parle sous le contrôle de Bruno Amable, qui est beaucoup plus compétent que moi sur la question économique et dont j'apprécie beaucoup les travaux. Il y a eu une instrumentalisation de la question économique, il y a eu aussi d'une certaine manière, une mise en adéquation d'un cadre politique pour qu'il réponde à un nouveau mode de développement économique, ce capitalisme néolibéral. Ce que je voudrais tout de même souligner, c'est que tout dépend d'où on se place. Si on se place du côté, si on prend la perspective des classes populaires, notamment masculines, de nos pays, alors effectivement, à partir de la fin des années 1970, on a une déstabilisation croissante des compromis qui avaient été atteints autrefois, et on voit bien, et aujourd'hui on en a des contre-coups extrêmement forts dans tous ces pays formellement démocratiques, dans les vieilles démocraties, on voit bien que tout est remis en cause. En même temps, au même moment, on propose aux femmes de satisfaire une vieille revendication de plus de participation dans la vie politique. C'est à peu près au même moment. Pensez aux lois sur la parité, par exemple.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il ne faut pas idéaliser cette période de démocratie d'avant les années 70.
La conférence de Pékin sur la présence des femmes en politique, c'est 95. Il y a pour la première fois la promesse d'extension de ce système à l'ensemble du monde, alors qu'auparavant c'était finalement monopolisé par les pays ex-coloniaux. Il y a la libéralisation incroyable qu'apporte Internet, les réseaux sociaux, la multiplication des chaînes de radio, de télévision. Donc pendant un moment, le message qui dit le néolibéralisme va apporter non pas moins mais plus de démocratie semble assez crédible, et la période, disons, d'hégémonie du néolibéralisme, à la fois économique et politique, c'est les années, disons, après la chute du mur de Berlin, où le monde semble en train d'être fait de façon positive.
Et à ce moment-là, Bruno Abab, comment le rôle de l'État dans l'économie est alors redéfini sous l'influence justement de ces courants libéraux dont nous parlons ?
En fait, le néolibéralisme, il remonte aux années 30, et il, pour rebondir sur ce que vient de dire Yves Saint-Omer, il essaye de renouveler la pensée libérale en essayant de revenir à des bases qui sont plus acceptables, et notamment en promouvant la concurrence et la libre compétition par rapport à la défense des situations établies et des privilèges. C'est pour ça que ça peut apparaître quasiment comme une idéologie de la libération pour des gens qui effectivement sont situés un peu en dehors, un peu à la marge, parce que c'est presque, de façon paradoxale, c'est presque une promesse d'inclusion. Et alors, pour ce qui est du revenir à votre question plus précise sur le rôle de l'État...
Est-ce que l'État ne fait que réduire son périmètre, ou est-ce que ça va plus loin que cela ?
Non, il redéfinit plus exactement son mode d'intervention. Et son mode d'intervention est précisément favoriser à la fois l'émergence et la bonne marche d'un marché concurrentiel généralisé. Et donc, le néolibéralisme est une idéologie de l'État fort, et d'un État fort qui doit agir contre les forces qui voudraient se protéger de la concurrence ou qui voudraient empêcher la libre compétition provenant de ceux qui sont à la marge. Donc, c'est pas du tout du moins d'État, c'est de l'État autrement par rapport à l'État, disons, du compromis social-démocrate.
Et alors, quelles sont les conséquences de ce tournant néolibéral ? Je vous propose d'écouter à ce sujet l'économiste Branko Milanovic.
Les extrêmement riches, c'est le top 1%, vraiment. Leur gain réel, absolu, était vraiment énorme. Vous avez d'ailleurs que 44% de l'augmentation de PIB mondial appartiennent aux 5% des plus riches. Mmh. Et quelque chose, je pense, de 25% appartient à le centile le plus riche. Alors vraiment, quand on fait un peu une autre façon de regarder à ces gains, on prend vraiment le PIB mondial 1988, on regarde l'augmentation, alors la plupart de cette augmentation de PIB riche est appartenue aux riches. Bien sûr, une partie importante appartient à la Chine, Inde, Indonésie, etc. Mais comme leur revenu était très inférieur au début, le gain en termes de pourcentage qui nous apparaît très important, en termes absolus, est relativement limité.
Bruno Amable, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que la concentration des richesses au niveau mondial, comme le dit Branko Milanovic, n'a jamais été aussi élevée. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Mais il y a une logique d'accumulation du capital qui fait que, en gros, ceux qui sont les plus riches disposent déjà des rendements de leurs avoirs qui sont les plus élevés. Donc ça a une tendance à faire que la richesse va à la richesse. D'un autre côté, il y a la fin du compromis social-démocrate veut dire aussi qu'on élimine tous les arrangements institutionnels qui avaient permis une répartition plus égalitaire des revenus. Hein. Entre la désyndicalisation, le retrait de l'État social, etc. Enfin bref, c'est une mesure qui rend les mécanismes les plus bruts d'accumulation du capital, qui les rend beaucoup plus importants et primordiaux dans le fonctionnement économique.
Et ça explique, Yves Saint-Omer, ce retour des inégalités dont parle Thomas Piketty depuis les années 80, en particulier aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Oui, on a, je crois que les travaux de Piketty et de son équipe, après ceux d'autres économistes bien sûr, l'ont montré. On a globalement à l'intérieur de chacun des pays ou des ensembles régionaux une croissance des inégalités qui remet en cause encore plus ces compromis qui étaient remis en cause déjà. C'est une espèce de logique cumulative. C'est pas exactement ce qui arrive à une échelle, disons, entre pays, où on voit une croissance du revenu moyen dans un pays comme la Chine, qui est tout de même extrêmement important, et qui, même si elle s'accompagne d'une croissance des inégalités, voit les couches populaires augmenter énormément leur pouvoir d'achat, alors qu'elles stagnent aux États-Unis.
On a effectivement un paradoxe, des inégalités entre pays qui diminuent, mais des inégalités à l'intérieur des pays occidentaux qui augmentent.
Entre certains pays et certains autres, hein, parce que c'est pas forcément le cas pour tel ou tel pays africain, par exemple. Et du coup, on peut aussi voir que le taux de satisfaction des citoyens chinois par rapport à leur régime est plus élevé que celui des citoyens américains. Alors évidemment, il y a la propagande qui joue, mais enfin la propagande, elle existe aussi dans les sociétés occidentales, même si c'est pas un niveau similaire, évidemment. Mais ça s'explique aussi par des dynamiques socio-économiques extrêmement claires.
Et à cela, il faut évidemment relier cette question du rejet croissant de la démocratie représentative à laquelle on assiste dans les pays occidentaux. Pour vous, il faut le relier directement à ces difficultés économiques et sociales croissantes.
Je pense pas que ça soit la seule cause. Les progrès de l'éducation font que la distance moyenne entre quelqu'un qui est membre de la classe moyenne, qui a fait l'université ou une grande école, et puis les dirigeants politiques, aujourd'hui, l'écart en termes d'éducation n'est pas énorme. Pensez à l'écart immense qu'il pouvait y avoir entre un paysan et un député à la fin du 19e siècle. Il n'a rien à voir. Il y a des évolutions sociales. Pensez à la façon dont nos grands-parents étaient socialisés et dont nos enfants aujourd'hui sont socialisés. Les réseaux sociaux, Internet, bouleversent la donne, donnent l'habitude d'une société en réseau qui n'était pas du tout structurée de la même manière auparavant. Et par rapport à ça, la politique fait du surplace.
Mais vous dites quand même que le capitalisme financier a vidé de sa substance la démocratie.
Mais d'un autre côté, le capitalisme financier qui mine les compromis intérieurs aux États, et qui, de l'autre côté, fait passer un nombre croissant de décisions à un niveau supranational, sur lequel les mécanismes de la démocratie représentative sont à peu près inexistants, au mieux très très indirects, contribuent de façon très forte à cette crise de la démocratie.
Il y a cette idée, Bruno Hamap, que les démocraties occidentales ne sont plus capables de permettre une hausse continue du niveau de vie pour le plus grand nombre, et c'est ça qui explique ce rejet aujourd'hui, pour vous, de la démocratie représentative ?
Le rejet de la démocratie représentative, c'est pas seulement de la part de la grande masse qu'il vient, c'est aussi de la part des privilégiés. C'est-à-dire que si on considère l'affrontement capital-travail, le rejet de la démocratie, il a d'abord été un rejet qui provenait du capital, qui craignait justement que la loi du nombre fasse que des masses de pauvres demandent des limites à l'accumulation du capital ou un autre type de société. Maintenant, il est clair que finalement, c'est pas n'importe quel type de capitalisme qui était compatible avec la démocratie. C'était un capitalisme qui était encadré par des institutions particulières, qui avait un type d'organisation qui était particulier, etc. Et le tournant néolibéral initié depuis les années 70-80 qu'on a observé a en fait dissous toutes ces institutions et ces formes d'organisation, que ce soit au plan national ou au plan international. Alors pas complètement et pas toutes de la même manière, mais enfin on arrive à un capitalisme qui est un capitalisme beaucoup plus dérégulé qu'il ne l'a été dans la période de l'immédiate après-guerre. Et en fait, du point de vue, alors cette fois-ci, la plus grande masse des électeurs, les marges de manœuvre de la politique démocratique sont devenues quasi inexistantes. Au surplus, les équilibres politiques ont fait que dans les démocraties occidentales, les alternances politiques ne se sont plus traduite par la mise en œuvre de projets économico-politiques différents, mais au contraire par la répétition sans cesse de la même orientation.
C'est toujours la même politique économique libérale qui est mise en place par des gouvernements de droite et de gauche, c'est ce que vous voulez dire.
Oui, c'est ça. Peu importe pour qui on vote, de toute façon, on a toujours la même politique. Donc il est clair que ça conduit à une certaine désillusion vis-à-vis au moins de la procédure de vote, si ce n'est de la démocratie en général, qui un peu plus large quand même que uniquement voter tous les 5 ou tous les 4 ans.
Donc face à ce capitalisme qui est monté en puissance, on est entré dans la post-démocratie, ce concept qui a été élaboré par le sociologue britannique Colin Crouch, Yves Saint-Omer.
Alors la proposition conceptuelle de Colin Crouch de dire post-démocratie me semble à la fois forte et mérite critique. L'aspect qui est fort, c'est de dire que finalement, aujourd'hui, les grandes décisions sont prises, non pas à travers les procédures électorales formelles, non pas à travers la démocratie représentative telle que on l'enseigne à l'école ou dans les cours de droit constitutionnel, mais dans les coulisses, par des organismes technocratiques, par des grandes firmes transnationales, par des accords intergouvernementaux dans lesquels finalement les électeurs n'ont guère leur mot à dire.
C'est l'un des grands reproches qui est fait à l'Union européenne.
Voilà. Donc, et on pourrait dire a fortiori pour la mise en place de normes, par exemple, à l'échelle internationale sur les produits, bref. Donc, ça, c'est l'aspect fort. L'aspect plus critiquable, c'est de mythifier un petit peu ce qu'il y avait avant. C'est de prendre le regard de ceux qui étaient intégrés auparavant à ce que Colin Crouch considère comme l'apogée de la démocratie, c'est-à-dire des salariés des pays du centre du monde, masculins. Le reste du monde, c'était pas l'apogée de la démocratie à l'époque. On a des guerres coloniales encore. La France en sait quelque chose jusqu'au début des années 1960. Ensuite, on a des mécanismes qui contraignent énormément toute les procédés démocratiques dans les ex-pays coloniaux.
Donc une crise de la démocratie a nuancé peut-être au regard de ce qui a pu se faire avant.
Et puis, il n'y avait pas d'élus femmes à ce moment-là.
Alors à ce propos, je voudrais aussi vous faire entendre une autre voix, celle du sociologue allemand Wolfgang Strick.
States have been, on the one hand, co-opted for maintaining the...
D'une part, les États ont été cooptés afin de préserver le droit d'accumulation de capital. D'autre part, ils ont perdu leur capacité à protéger les électeurs et les citoyens des conséquences de ce processus.
To tame the explosive conflicts within a capitalist...
Et afin de dompter les conflits explosifs au sein de l'économie capitaliste, les gouvernements ont dû avoir recours, pour ainsi dire, à des solutions qui se sont ensuite transformées en problèmes. L'inflation est une de ces solutions pour régler les conflits de redistribution, mais elle ne peut pas être utilisée éternellement. Quand on a arrêté de s'en servir au début des années 80, a alors commencé une période de hausse de la dette publique, qui a également dû être consolidée dans les années 90. Cependant, pour assurer une demande globale et une satisfaction suffisante chez les électeurs et les consommateurs, il a fallu faire autre chose, à savoir ouvrir les marchés du crédit privé afin que les ménages puissent s'endetter de la même manière que les entreprises. Cela a conduit à une énorme augmentation de la dette globale jusqu'au début des années 2000. Puis est venu l'effondrement de ce système après lequel nous ne savons pas très bien où nous en sommes.
Bruno Amable, non seulement les gouvernements ont tenté de mettre des mesures en place pour satisfaire les électeurs, comme le dit ici Wolfgang Strick, et non seulement ça n'a pas suffi, mais ça a eu aussi des conséquences économiques importantes.
Il faisait référence à la montée de la dette. La montée de la dette, c'est à la fois, alors il l'explique bien dans ses livres, c'est à la fois la façon d'échapper à une contradiction, qui est une sorte de contradiction budgétaire. Voilà. En gros, il y a une expression où il dit quelque chose comme ça permet d'éviter les limites du jeu à somme nulle, quoi, de s'imaginer que pendant un moment on a échappé à la contrainte du jeu à somme nulle. Mais ça a des conséquences parce que c'est aussi une stratégie délibérée. C'est notamment c'est une stratégie pour remettre en cause la dépense publique en général, quoi. C'est-à-dire il y a une stratégie délibérée de creuser les déficits de façon à empêcher tout accroissement de la dépense publique, notamment la dépense publique dans l'État social, et pour en fait conduire à un retrait de l'État social à plus ou moins long terme, ce qui a des conséquences sur le type de capitalisme dans lequel on vit, et comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire un capitalisme où l'État social est en voie de retrait très très prononcé, c'est pas forcément un capitalisme qui est très compatible avec un mode de vie politique démocratique.
Saint-Omer disait tout à l'heure que néolibéralisme et capitalisme pouvaient sembler compatibles dans les années 80, mais alors à quel moment est-ce qu'il y a eu cette prise de conscience progressive de cette décorrélation entre les deux ? Parce que ce qu'on constate, c'est que finalement il a fallu attendre quasiment la crise de 2008 pour que le capitalisme financier soit pointé du doigt, Yves Saint-Omer.
Je pense que ça arrive un petit peu avant. Streeck dit à juste titre qu'aujourd'hui les élus sont responsables devant deux groupes, les citoyens d'un côté, les marchés de l'autre, et que finalement les marchés pèsent davantage que les citoyens. En cela il a raison, mais il avait aussi une vue purement internaliste de la question. Il parle de ce qui s'est passé dans les pays du centre du capitalisme mondial et pas dans les autres. C'est une vue de ce point de vue-là qui est limitée. Et par ailleurs, au passage, il a joué l'apprenti sorcier puisqu'elle était conseillère de Schröder au moment où le gouvernement allemand a mis fin au compromis social-démocrate dont parlait Bruno.
Et a mis en place la dérégulation du marché du travail.
Voilà. Donc, mais au-delà, je pense que la contestation, elle commence dès les années 1990. Finalement, quelques années après la chute du mur de Berlin, en France, c'est la grande grève sur la question des retraites. On peut penser ce qu'on veut de la... de façon technique de la revendication, mais elle manifestait, je crois, ce refus du néolibéralisme montant. Et à l'échelle internationale, c'est l'affirmation du mouvement altermondialiste qui a beaucoup marqué. Quand vous êtes en Amérique latine, il y a eu un avant et un après de ce point de vue-là. Puis aujourd'hui, il y a encore un après. Et donc, ça monte assez vite, finalement.
Parallèlement à ça, il y a les réussites économiques de la Chine après l'ouverture en 78 par Deng Xiaoping. Et on constate, Bruno Amable, que la Chine réussit à allier finalement capitalisme et autoritarisme politique.
Oui, parce que, comme on l'a bien vu depuis le début de l'émission, en fait, il n'y a aucune obligation pour le capitalisme d'être démocratique.
Et s'il y avait encore des doutes, en tout cas, l'exemple de la Chine est venu le remettre en question.
Oui, après les exemples des dictatures sud-américaines et autres. Hein. Mais l'autoritarisme se marie d'autant mieux avec le capitalisme en Chine que c'est un capitalisme qui, alors là, c'est très bien montré dans le dernier livre de Thomas Piketty, c'est un capitalisme qui a vu une montée tout à fait stupéfiante des inégalités dans un laps de temps très très faible. Et donc, c'est un capitalisme qui probablement ne supporterait pas très bien des mécanismes démocratiques qui amènerait probablement la grande masse des Chinois à demander de la redistribution, de la protection sociale et autres.
Aujourd'hui sera le dernier jour de mon existence, la dernière fois que je ferme les yeux, mon dernier silence. J'ai longtemps cherché la solution à ces nuisances, ça m'apparaît maintenant comme une évidence. Fini d'être une photocopie, fini la monotonie, la lobotomie. Aujourd'hui, je mettrai ni ma chemise ni ma cravate. J'irai pas jusqu'au travail, je donnerai pas la patte. Adieu les employés de bureau et leur vie bien rangée. Si tu pouvais rater la tienne, ça les arrangerait. Ça prendrait un peu de place dans leur cerveau étriqué. Ça les conforterait dans leur médiocrité. Adieu les représentants grassouillés qui boivent jamais d'eau comme s'ils voulaient pas se mouiller. Les commerciaux qui sentent l'aftershave et le cassoulet. Mettent de la mayonnaise sur leur mallette, ils se la boufferaient. Adieu, adieu les vieux comptables séniles. Adieu les secrétaires débiles et leurs discussions stériles. Adieu les jeunes cadres fraîchement diplômés qu'empileraient les cadavres pour arriver jusqu'au sommet. Adieu tous ces grands PDG. Essaie d'ouvrir ton parachute doré quand tu te fais défenestrer. Ils font leur peur sur des salariés désespérés et jouent les vierges effarouchées quand ils se font séquestrer. Tous ces fils de quelqu'un, ces fils d'une pute snob qui partagent les trois quarts des richesses du globe. Adieu ces petits patrons, ces pauvres bourgeoisés qui grattent les RTT pour payer leurs vacances d'été. Adieu les ouvriers, ces produits périmés. C'est la loi du marché mon pote, t'es bon qu'à faire virer. Ça t'empêchera d'engraisser ta gamine affreuse qui se fera sauter par un pompier qui va finir coiffeuse. Adieu la campagne et ses familles crasseuses proches du port au point d'attraper la fièvre rafteuse, toutes ces vieilles, ces commères qui se bouffent entre elles, ces vieux radins et leurs économies bout de chandelle. Adieu cette France profonde, profondément stupide, cupide, inutile, putride. C'est fini, vous êtes en retard d'un siècle. Plus personne n'a besoin de vos bandes d'inceste. Adieu tous ces gens prétentieux dans la capitale.
Vous écoutez Suicide Social d'Aurel San sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, l'économiste Bruno Amable en duplex de Genève et le politiste Yves Saint-Omer sont toujours avec nous pour parler de la concentration des richesses dans nos démocraties. Alors il y a maintenant un aspect qu'il va falloir aborder, qui est absolument essentiel dans notre discussion, c'est la question de la mondialisation économique. Quel rôle a-t-elle joué, justement, Bruno Amable, dans le recul démocratique que l'on observe aujourd'hui ?
Elle a offert au capital une fantastique option de sortie, on pourrait dire, option de sortie justement des limites du compromis social-démocrate, c'est-à-dire la possibilité accrue d'échapper à l'imposition qui était nécessaire pour assurer l'ensemble des prestations en matière de services publics, de biens publics et de protection sociale.
Donc jouer de la concurrence fiscale et sociale entre les pays.
Voilà, et fiscale et sociale, possibilité de délocaliser, possibilité après la chute du mur de Berlin d'utiliser une main d'œuvre soit bien formée et peu payée, soit peu formée mais encore moins bien payée, etc. Enfin bref, tout un ensemble d'occasions qui renouvelaient les possibilités de mise en valeur du capital au détriment évidemment d'une partie, pas de tous, mais d'une partie des salariés des anciennes démocraties capitalistes, on pourrait dire.
Et cela d'autant plus que on manque peut-être, Yves Saint-Omer, d'une structure supranationale qui soit décisionnaire sur ces questions. On voit que même à l'échelle de l'Union européenne, il n'y a pas d'harmonisation fiscale et sociale.
Oui, à l'échelle de l'Union européenne et plus encore à l'échelle internationale. On a des mécanismes de coordination économique et de règlement des différends internes au capitalisme qui sont finalement relativement performant au-delà de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine aujourd'hui, mais ça ne doit pas faire oublier tout ce qui se passe normalement, entre guillemets, sans cela. Par contre, il est clair que du point de vue politique, on en est à un stade extrêmement peu avancé de développement de mécanismes de coordination politique qui soient en même temps démocratiques, ne serait-ce qu'en partie. Et donc, de ce point de vue-là, entre l'internationalisation du capital d'un côté et celle de la démocratie de l'autre, on a un gouffre qui s'est ouvert et qui s'accroît encore, malheureusement, de jour en jour.
On se demande si, effectivement, les multinationales, et en particulier les géants du numérique, sont aujourd'hui plus puissantes que les États. Je vous propose d'écouter Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui déclare comprendre la méfiance des citoyens à l'égard des multinationales.
Je crois que c'est un instinct naturel. Je crois que nous, les humains, en particulier à l'Ouest, et en particulier dans les démocraties, sommes enclins à être sceptiques et attentifs aux grandes institutions de toute espèce. Nous sommes toujours sceptiques vis-à-vis du gouvernement américain, des gouvernements fédéraux et locaux. Je suppose que c'est pareil en Allemagne. C'est sain, car ce sont de grosses et puissantes institutions, la police, l'armée ou quoi que ce soit. Cela ne veut pas dire que vous ne leur faites pas confiance, ou qu'elles sont mauvaises, diaboliques ou quelque chose comme ça. C'est juste qu'elles ont beaucoup de pouvoir et de contrôle, et donc vous voulez les inspecter. Peut-être est-ce pour le mieux. Vous voulez en quelque sorte toujours les inspecter. Et si vous regardez les grosses sociétés de technologie, elles sont devenues assez grandes pour qu'elles aient besoin d'être inspectées et soient inspectées. Et au passage, ce n'est pas personnel. Je crois que vous pouvez vous égarer si vous êtes l'un des fondateurs de ces grandes entreprises, une de ces grosses sociétés de technologie ou toute autre grande institution. Si vous vous égarez, vous pouvez le prendre personnellement, du genre « pourquoi est-ce que vous m'inspectez moi ?» Et je souhaite que les gens disent simplement « ok, c'est bon ».
Ok, c'est bon, Jeff Bezos, dans une interview pour Business Insider le 28 avril 2018. Beaucoup de bonne volonté ici, Yves Saint-Omer, qui peut interpeller quand on sait que Amazon pratique l'optimisation fiscale et a été beaucoup accusé pour les mauvaises conditions de travail de ses salariés.
D'une part, et deuxièmement, continue à faire un lobbying intense pour éviter justement ce contrôle que le président de cette multinationale numérique évoque. Et puis, je crois qu'il passe sous silence deux choses. C'est que ce n'est pas naturel, simplement, d'avoir de la défiance par rapport au gouvernement ou à l'État. Il y avait 80% des citoyens dans les sociétés occidentales qui faisaient confiance à l'État, au système politique, dans les années 1950. Aujourd'hui, c'est plutôt du 20%, du 10%. Donc, il y a une situation particulière aujourd'hui. Et puis,
c'est une façon de souligner qu'il n'y a pas de problème finalement, que cette méfiance est légitime.
Elle est là tout le temps finalement, business as usual. Et deuxièmement, dans ces États, il y avait la possibilité de véritables contrepoids à l'échelle même de l'État, alors qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de contrepoids véritable à l'échelle de ces grandes sociétés multinationales, en particulier de celles qui sont dans le numérique.
Jeff Bezos peut d'autant plus s'exprimer ainsi, Bruno Amable, qu'il redoute assez peu ce contrôle des États dont il parle.
Oui, son pouvoir d'échapper aux contraintes est tout à fait important. Il peut, coopérant à l'échelle mondiale, il peut s'arranger pour payer les impôts là où les taux sont les plus faibles. Il peut se permettre, compte tenu de l'état de marché du travail dans de nombreux pays, il peut se permettre de payer relativement mal, voire très mal, ses salariés. Il n'a pas de contrôle sur les lois du travail excessives à craindre. Enfin oui, les choses vont plutôt bien.
Mais est-ce que les menaces qui pèseraient sur les géants du numérique sont si faibles que cela ? Aujourd'hui, la question du démantèlement de ces fameux GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft est revenue dans le débat public aux États-Unis. Alors on peut se demander d'une part si c'est souhaitable, mais aussi si l'État fédéral américain n'aurait pas tout de même le pouvoir de le faire, Bruno Amable.
Ah ben, mais bien sûr, de toute façon, on a vu dans l'histoire des périodes où ces firmes gigantesques ont été obligées de se séparer d'une partie de leurs activités, etc.
Au nom du droit de la concurrence.
Au nom de, exactement, mais c'est une des contradictions assez intéressantes du néolibéralisme, qui est d'être en tant qu'idéologie s'appuyer sur la glorification de la concurrence, et en tant que pratique politique et institutionnelle, au contraire, de favoriser la concentration du pouvoir économique. Et donc l'ère néolibérale n'a pas été celle de l'ère de la concurrence, entendue, ou d'une libre compétition entre loyales, etc., mais au contraire, l'émergence de ces pouvoirs économiques tout à fait énormes.
Mais maintenant, vous y croyez-vous à un démantèlement des GAFAM ?
Il faudrait un équilibre politique qui soit capable de le soutenir. Et pour l'instant, je ne le vois ni aux États-Unis ni beaucoup en Europe, parce que c'est là où il faudrait rentrer dans le détail des équilibres politiques qui permettent le régime économico-politique dans lequel on est. En Europe, par exemple, il est clair que du point de vue de certains acteurs politiques, on n'est pas encore au bout des possibilités de démantèlement de l'État social que permet la concurrence fiscale. Donc, vous voyez, la remise en cause beaucoup trop grande du comportement de ces grandes firmes vis-à-vis de l'imposition, ça irait à l'encontre d'objectifs plus restreints de certaines forces politiques qui sont de réduire l'État social à quelque chose de beaucoup moins important que ce qu'il n'est actuellement.
C'est pour ça que quelqu'un comme Jürgen Habermas, Yves Saint-Omer, considère que le capitalisme moderne est en train d'opérer une re-féodalisation. Et en quoi consiste, selon lui, cette reféodalisation?
Habermas en a présenté deux versions. Il y avait une version dans les années 1950 qui restait très attachée à un idéal des Lumières dans lequel, disons, la division publique-privée était plus étanche, en tout cas apparemment, qu'elle ne le devenait avec un État qui prenait de plus en plus de place en alliance avec des grandes corporations, au moins sur certains aspects. Puis il y a une deuxième version qu'il propose aujourd'hui qui est un peu différente, qui est l'idée que justement ce compromis social-démocrate a éclaté et que du coup on revient à une ère où des puissances privées font les normes, en fait, font les normes. Et je crois que par rapport à cette situation d'un capitalisme globalisé, nous vivons une période de transition. On ne peut pas revenir en arrière à l'époque, disons, nationale-sociale, où dans ces États occidentaux, on avait réussi à dompter le capitalisme et faire un compromis qui soit plus ou moins acceptable par la majorité de la population. Il faut établir des compromis à une autre échelle, alors les États-Unis, la Chine, l'Europe, mais en même temps on voit bien en Europe comment les forces qui pourraient pousser à ce compromis-là à l'échelle européenne sont fragmentées, restent prises dans des logiques nationales qui rendent bien difficile l'établissement de contrepoids à l'échelle nécessaire.
L'une des possibilités, c'est peut-être de remettre de la démocratie dans le cadre de l'entreprise. Et à ce niveau-là, peut-être qu'il est urgent de repenser le partage du pouvoir, notamment dans les conseils d'administration, et élargir en France notamment le principe de la co-gestion qui est particulièrement développé en Allemagne, Bruno Amable.
Oui, c'est une des pistes. Je ne sais pas si ça suffira, parce que en fait, vous avez, comme tous, c'est-à-dire vous avez une version forte et une version faible. Dans la version forte, c'est effectivement une sorte de gestion qui associe capital-travail, etc. Dans sa version faible, c'est juste transformer une partie de bureaucrates syndicaux en administrateurs qui vont avoir les mêmes droits que les autres administrateurs et donc probablement avoir le même comportement. Mmh. Et sinon, sur le plan idéologique, c'est essayer de transformer tout le monde en capitaliste pour que tout le monde ait une sorte d'éthos, d'éthos du capitaliste.
Donc vous ne croyez pas que ça contribue que ça permettrait, par exemple, de diminuer l'écart entre les salaires des dirigeants d'entreprise et ceux des employés, écart qui a considérablement augmenté, justement, peut-être, à cause de l'accroissement du pouvoir des dirigeants au sein des conseils d'administration.
Si, probablement, mais je ne suis pas sûr que ce soit... c'est une mesure, si vous voulez, parmi d'autres, mais ça suffira pas à renverser le mouvement dont on parle depuis le début de l'émission.
Mmh. Yves Saint-Domingue.
Oui, je suis d'accord avec ce que dit Bruno Hammam, là. Simplement en mettant une nuance ou en ajoutant un argument, c'est que tout de même, les pays en Europe qui s'en tirent le mieux au niveau économique, mais qui également ont préservé un peu plus un modèle de compromis social, les pays d'Europe centrale et du Nord, sont des pays où le poids des syndicats, le poids des salariés est plus important dans les entreprises qu'il ne l'est chez nous, a fortiori en Europe du Sud. On pourrait même ajouter, ça peut sembler paradoxal, les enquêtes montrent qu'aujourd'hui en Chine, lorsque le Parti communiste implante ses cellules dans les entreprises, et notamment dans les entreprises étrangères, et qu'il peut s'appuyer sur la présence de syndicats, qui normalement en Chine sont plutôt des syndicats qu'on appelle jaunes, qui sont plutôt avec le patronat qu'avec les salariés, eh bien ça produit des effets positifs pour les salariés en question, une présence d'une politique, en fait, que malheureusement, on a moins souvent l'occasion de voir dans nos pays aujourd'hui.
Mais cette question de la syndicalisation, même si elle est importante, elle est d'autant plus complexe qu'aujourd'hui, on entre dans la gig économie, l'économie des petits boulots. Yves Saint-Omer, on a le sentiment qu'on est justement on fait face à un retour en arrière, à la fois sur le plan économique et puis sur le plan social.
Oui, et pour le coup, là, les grandes entreprises, les multinationales du net sont absolument à la pointe de cette déstructuration du travail salarié. Mais là encore, je crois que les syndicats sont aussi à la traîne et qu'ils n'ont pas réussi, pour l'instant en tout cas, à prendre en moyenne, évidemment, de façon massive, ce tournant-là, et à réussir à mobiliser ces nouvelles couches de travailleurs qui sont de facto salariés, dans le sens où ils sont soumis aux logiques de l'entreprise, tout en ayant très souvent un statut d'auto-entrepreneur ou des statuts équivalents.
Bruno Hammam, qu'est-ce que vous pensez de ce concept de reféodalisation développé par Habermas ? Est-ce que vous estimez qu'on assiste aujourd'hui à un retour en arrière ?
Oui, d'une certaine manière, mais d'une autre manière, c'est-à-dire qu'il faut regarder, à mon avis, les choses de plus près, et de regarder quels sont les équilibres politiques et sociopolitiques, disons, qui existent à l'intérieur des pays, pour voir avec quel type d'environnement institutionnel tout ça est compatible, c'est-à-dire... vous voyez, il y avait une formule que j'aimais bien qu'Alain Lipiette utilisait. Il disait la période fordiste, donc de l'après-guerre, c'était l'alliance d'une partie du capital avec les salariés. Et là, j'ai l'impression qu'on est passé plutôt à une alliance du capital avec une partie des salariés, c'est-à-dire les salariés les mieux formés, ceux qui ont le moins à craindre de la concurrence internationale, de la concurrence inter-individuelle sur le marché du travail.
Oui, parce que donc, parallèlement, il y a eu un fossé qui s'est encore creusé entre d'un côté les emplois qualifiés et les jobs précaires depuis 2008.
C'est-à-dire que oui, on a plus qu'une reféodalisation. Enfin, si on veut, c'est-à-dire que c'est un équilibre politique, sociopolitique, si vous voulez, qui favorise plutôt une sorte d'union des classes éduquées avec les classes possédantes. Ce qu'avec mon ami Stefano Palombarini, on avait appelé, dans le cas de la France et d'Italie, on a appelé ça le bloc bourgeois. Et c'est la base sociale d'un nouveau régime qui serait un régime, alors inégalitaire sur le plan économique, les conditions dont on parle depuis le début de l'émission, et sur le plan politique, qui verrait effectivement la domination politique d'une minorité, mais qui devient une sorte de majorité relative par un désintérêt de la la politique et même de l'action collective de la part d'une masse de salariés qui sont voilà, isolés, individualisés, désintéressés, désabusés.
Oui. Lucien Thomaire, vous partagez cette vision d'une domination d'un bloc bourgeois, pour reprendre les termes de Bruno Amable?
Oui, je pense que de façon différente, bien sûr, d'un pays à l'autre, c'est vers cela que l'on va. Sans sous-estimer le fait que dans une partie, au moins, des pays émergents, une grosse classe moyenne s'est formée là où elle n'existait pas autrefois et qu'elle donne un appui, qui peut être un appui de masse, à des régimes qui souvent ne sont pas démocratiques et sont autoritaires. Je voudrais ajouter cependant une chose, c'est que il faut aujourd'hui, je crois, renoncer à l'idée que la démocratie, ça serait quelque chose qui s'exercerait dans le cadre de la souveraineté, avec une seule norme, une seule communauté politique qui pourrait s'autogouverner. Pour le meilleur ou pour le pire, on est revenu à une société dans laquelle il y a une pluralité de normes qui ne sont pas hiérarchisées les unes avec les autres. Les normes que prennent les grandes multinationales, les normes des États, les normes des organismes internationaux. Et il faut vivre avec. Il faut penser la démocratie aujourd'hui à une autre échelle.
Et ce creusement des inégalités a en tout cas eu un effet, c'est la montée des populismes.
Il faut que nous rompions avec les principes libéraux et les méthodes de l'organisation sociale, et en général, avec la conception libérale de la société. Je dis cela à propos de deux dimensions. Je ne souhaite pas m'étendre sur le sujet, je veux juste l'aborder pour que l'importance du problème puisse être sentie. Concernant les relations entre deux personnes, le point de départ de l'organisation libérale de la société est basé sur l'idée que nous avons le droit de faire tout ce qui ne porte pas atteinte à la liberté de l'autre. C'est sur ce principe idéologique et point de départ que le monde hongrois a été construit durant les 20 années précédant 2010. En accord avec le principe général en Europe de l'Ouest d'ailleurs. On peut donc interpréter ce qui se passe en Hongrie aujourd'hui en affirmant que les dirigeants politiques en place ont tenté de faire en sorte que le travail personnel et les intérêts de la population, qui doivent être reconnus, soient étroitement liés à la vie de la communauté et de la nation, et que cette relation soit préservée et renforcée. En d'autres termes, la nation hongroise n'est pas seulement un groupe d'individus, mais une communauté qui doit être organisée, renforcée et en fait construite. Et donc, dans ce sens, le nouvel État que nous sommes en train de construire en Hongrie est un État illibéral. Un État non libéral. Il ne rejette pas les principes fondamentaux du libéralisme tels que la liberté, et je pourrais en nommer quelques autres, mais il ne fait pas de cette idéologie l'élément central de l'organisation de l'État, mais à la place, il inclut une approche différente, spéciale, nationale.
Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, dans un discours prononcé en 2014, Yves Saint-Omer, en quoi consiste cette démocratie illibérale promue par Orbán et qui vient remplacer, selon lui, des décennies de politique libérale non démocratique?
J'ai quelques doutes sur cette opposition entre libéralisme et populisme ou démocratie illibérale. Que cette opposition soit mise en scène par les libéraux, qu'elle soit mise en scène, comme M. Orbán vient de le faire, par ces, entre guillemets, populistes illibéraux ou démocrates illibéraux. Elle consiste en fait à présenter une version inversée du libéralisme, là où il y aurait la primauté des droits individuels sur le marché comme dans la société, il y aurait la primauté d'une communauté largement essentialisée sous des formes ethniques qui se montrent fortement en Hongrie. Il me semble que le débat ne se réduit pas à ces démocraties libérales versus les démocraties illibérales et qu'il y a bien d'autres dynamiques aujourd'hui qui sont en cours et qui peuvent aller au-delà d'une alternative assez stérile, finalement, lorsqu'on considère les enjeux et les défis du XXIe siècle.
Alternative qui est peut-être stérile, mais on peut tout de même réagir et réfléchir à ce qui attire, en tout cas, un certain nombre de gens dans ce type de discours, Bruno Amable. Et puis, on peut aussi se demander si la politique économique, par exemple, qui a été menée en Hongrie, est elle aussi illibérale.
Ce qui attire, ce qui peut attirer certains électeurs, c'est certains des éléments qu'on avait évoqués plus tôt, c'est-à-dire le fait que les partis de gouvernement ont en fait restreint considérablement l'éventail des politiques possibles. Et donc, il ne reste plus que de la différenciation sur des éléments qui ne remettent pas en cause le mouvement de libéralisation économique, de déréglementation et de choses comme ça.
C'est l'idée donc, que Viktor Orbán va dire « je décide de la politique économique de mon pays et ce n'est pas l'Europe ». Mais dans les faits, est-ce que en réalité c'est vraiment une politique moins libérale qui est menée en Hongrie par Viktor Orbán que celle qui peut être menée par l'Union européenne ou selon les directives européennes?
Pas du tout, parce que la Hongrie justement est un des pays qui a le plus besoin des investissements internationaux au sein de l'Union européenne. Et puis même si on quitte le cas hongrois, si on regarde ce qui s'est passé en Italie il y a très peu de temps, enfin élu sur on va sortir de l'euro, on va sortir de l'Europe. Les premières déclarations, c'est de dire « Ah mais on va bien entendu rester dans l'euro » de la part des déclarations de Salvini. Donc c'est presque un jeu de compères, si vous voulez, dépasser l'opposition dont parlait Yves Saint-Omer, qui est effectivement une opposition un peu trompeuse. Vous voyez, c'est un débat politique organisé autour de libéral, en fait, est quelque chose qui va totalement dans la direction du renforcement de la stratégie de néolibéralisation économique des pays européens notamment, et avec finalement des contradictions qui semblent pas si graves que ça, parce que tout à l'heure on disait il y a au niveau de l'idéologie au moins il y a un aspect de libéralisation dans l'histoire que racontent les néolibéraux. On voit que là c'est un peu l'inverse avec des gens comme Orbán, Salvini et autres. C'est plutôt le retour à des valeurs un peu archaïques, un peu traditionnelles. Mais finalement ça a pas l'air ça n'a pas l'air d'entrer en contradiction avec les éléments les plus fondamentaux de la libéralisation économique.
Alors on arrive à la conclusion de cette émission. Je voudrais vous demander à l'un et à l'autre comment les États démocratiques peuvent aujourd'hui retrouver les moyens d'assurer leur mission si on considère toujours que cette mission consiste à rechercher l'intérêt général, Yves Saint-Omer.
Je crois d'abord qu'il faut prendre acte d'un monde complètement transformé, d'une société complètement transformée, que la politique au XXIe siècle, que la démocratie au XXIe siècle ne seront pas celles du XXe siècle. Donc il faut innover radicalement, et puis qu'il faut innover à la fois à l'échelle de l'État-nation, mais également en travaillant sur d'autres échelles, qu'elles soient infranationales, l'échelle locale, et qu'elles soient supranationales, et que du coup, d'une certaine manière, il faut retourner la table quelque part.
Bruno Amable.
Je pense qu'il y a deux choses. C'est-à-dire, au plan international, la mondialisation, c'est pas l'abolition des frontières, parce que les droits du capital, ils sont très très bien défendus à l'intérieur des frontières. C'est les autres droits qui ne le sont plus. Et donc, il faut probablement remettre en cause ce mouvement de mondialisation qu'on a connu. Et sur le plan intérieur, je pense qu'il faut œuvrer vers une autre définition des alliances sociales qui permettrait une autre stratégie économique qui pourrait permettre un renouveau de la démocratie.
Des questions qu'on va évidemment continuer à suivre de très près dans Entendez-vous l'écho. Un grand merci à tous les deux. Et c'est l'heure du journal de l'écho, présenté comme chaque jour par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
La fin du rêve d'une licorne. L'entreprise de location de bureaux partagés WeWork devait être une des entrées en bourse record cette année. Finalement, elle doit être sauvée in extremis par ses actionnaires à coups de milliards.
Oui, environ 8 milliards de dollars, c'est ce que pourrait dépenser le japonais SoftBank, le principal actionnaire de WeWork dans le monde. L'entreprise loue des bureaux partagés dans 111 villes. Ce devait être le phénomène boursier de cette année avec une valorisation annoncée à 47 milliards de dollars. Mais depuis cet été, c'est la déchéance. Elle est non rentable après 10 ans. Et puis surtout, les doutes sur sa gestion opaque se sont multipliés. La cotation prévue fin septembre est passée à 25 puis 20 milliards de dollars. Elle a été retardée puis finalement annulée. Et voilà ces 8 milliards de dollars. 5 viendront apaiser la crise de liquidité due justement au retardement de l'entrée en bourse de WeWork. Le reste servira à acheter encore plus de titres pour SoftBank, qui prendra le contrôle de l'entreprise et en évincera définitivement, espère-t-elle, son fondateur controversé Adam Neumann. Le problème, c'est finalement une entreprise d'immobilier valorisée comme Facebook, résume Sébastien Lay. Il est entrepreneur immobilier et chercheur associé à l'Institut Thomas More.
La question fondamentale, c'est pourquoi des investisseurs dans le domaine de la technologie, dont SoftBank, qui est son propre marché avec ce fonds gigantesque de 100 milliards de dollars, a finalement valorisé cette société comme une licorne technologique, alors que c'était une simple société, si je puis dire, magnifique, mais une simple société du domaine de l'immobilier, et qu'en réalité, on a des équivalents de pouvoir qui existent depuis plusieurs années, comme par exemple Regus, c'est les bureaux partagés qu'on trouve de partout, à Paris ou à New York, et que oui, certes, WeWork avait réinventé la catégorie, mais ça ne méritait pas d'être valorisé 8 à 10 fois ce que Regus était valorisé précédemment. La réponse, elle est simple, elle s'appelle bulle technologique. Bien évidemment que durant cette période d'argent facile, de liquidité, entre 2010 et 2019, il y a eu une bulle technologique, une bulle techno sur les licornes. Ça n'a pas été que WeWork, il y a eu aussi la question d'Uber. Est-ce que Uber est une vraie société de technologie? C'est une plateforme, je dirais, du monde tangible et concret, hein, des loueurs de voitures ou des sociétés de chauffeurs, ça existait avant Uber. Même chose pour WeWork ou d'autres sociétés de services ou Deliveroo ou autres. Et en fait, ces gens-là ont inventé une sorte de martingale financière en se présentant comme des sociétés technologiques, en levant de l'argent aux mêmes valorisations que Facebook, alors que intrinsèquement, d'un point de vue économique, elles ne peuvent pas être comparées à des sociétés logicielles, par exemple. Elles ont des coûts fixes énormes. On voit que WeWork n'arrive pas à gagner d'argent. Même chose pour Uber. WeWork perd toujours quasiment 900 millions de dollars par an. Et je crois que avec le recul, on regardera WeWork et peut-être même Uber comme des sociétés qui ont fait un petit peu scandale, comme précédemment, par exemple, dans les années 90, vous vous rappelez, pendant la bulle Internet, certaines sociétés de télécom, comme Worldcom, par exemple.
Par conséquent, Xavier, l'entreprise, qui emploie 12 500 personnes, pourrait aussi réduire ses activités.
Oui, puisqu'elle était devenue de WeCompany, elle s'était très diversifiée. Le plan de restructuration prévoirait ainsi la vente d'actifs, la fin de l'activité de design ou la fermeture d'une école élémentaire à Manhattan. Pas de raison, cependant, dit Sébastien Lec, que le point d'équilibre ne soit pas atteint, car les concurrentes, les compagnies sont profitables. Reste le coup de semonce, quand même, au monde économique, pour avoir voulu transposer le modèle Amazon à des entreprises qui ne sont pas prévues pour.
On passe au bref. Le Sénat américain veut une enquête sur les liens entre Donald Trump et des traders.
Une enquête pour délit d'initié qui concerne environ 1 milliard de dollars de profits boursiers. C'est ce que demandent en effet 14 sénateurs démocrates au ministère de la Justice américain, se demandant si les traders n'auraient pas eu connaissance à l'avance de discours du président américain pour prévoir certaines opérations financières risquées. L'article du Vanity Fair qui dévoile ces marchés du chaos de Trump, comme il l'appelle, détaille ainsi une série de mouvements suspects autour des variations, notamment de l'indice S&P 500 au moment de déclarations importantes de Trump ou d'étapes de la guerre commerciale avec la Chine, mais plus curieusement aussi des déclarations de Carrie Lam à Hong Kong.
Les agriculteurs manifestent partout en France et le ministère de l'Agriculture revient sur une baisse de financement.
Une baisse sur des revenus des chambres d'agriculture. Le gouvernement annule cette baisse prévue de 15% d'une taxe qui leur apportait 292 millions d'euros de financement. Le manque à gagner de 45 millions d'euros avait été dénoncé par les agriculteurs. Dénonciation reprise par des députés dans une tribune dimanche dans le Parisien. Car les chambres d'agriculture sont des grandes pourvoyeuses d'aide à l'installation des jeunes, par exemple, ou à la filière bois. On en parlait. Le gouvernement affirmait que cette baisse serait compensée par une baisse des charges sur les exploitations, mais les 50 euros annuels qu'elle représentait étaient jugés dérisoires. Cette décision évite donc la polémique. Elle n'empêche pas les manifestations aujourd'hui pour demander un soutien au président de la République.
Merci beaucoup Xavier Martinet. Votre journal de l'écho est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast.
Just what she pleases. Cause she's happy on her own. And she picks up all the pieces. She's going home.
Baby, I'm home, I'm home, I'm home.
Yeah, she's going home.
Baby, I'm home, I'm home, I'm home.
She's going home.
Baby, I'm home, I'm home, I'm home.
Oui, On se quitte avec Caribou qui sort son premier morceau Home 5 ans après le succès de l'album Our Love. Pas de nouvel album annoncé, mais une tournée prévue avec un passage à Paris le 27 avril à l'Olympia. Merci beaucoup Yves Saint-Omer et Bruno Amable de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour ce second épisode de notre série sur le capitalisme sous le feu des critiques. Demain, on parlera des métamorphoses de la figure du patron depuis la fin du 19e siècle. Nous serons en compagnie des sociologues Michel Auferlet et Valérie Boussard. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Baby, I'm home.